Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 30 septembre, quand le coronavirus fait bondir la pauvreté, le Secours populaire a vu passer depuis le début de l'année 45% de nouveaux demandeurs et s'attend à une crise inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous serons avec Thierry Robert, le directeur général de l'association. La délinquance explose-t-elle, comme le disent certains politiques? Les statistiques pour 2019 viennent d'être publiées par le ministère de l'Intérieur. Plus de violences intrafamiliales et surtout un bond des escroqueries à la carte bleue. Dans RTL Midi aussi, de la violence verbale, cette fois entre Trump et Biden, échange musclé et limite. L'Amérique se demande s'il faut vraiment maintenir les deux autres débats programmés. 824 millions d'euros de dons, c'est la somme vertigineuse collectée pour sauver Notre-Dame. La Cour des comptes s'y intéresse. Et puis nous vous raconterons l'histoire d'un magot de près de 600 000 euros retrouvé dans une cave à Paris. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Je ne vous remercie pas pour la bruine. Non,
ça c'est vrai, notamment dans la moitié nord. Ça va continuer d'ailleurs cet après-midi, j'y peux rien. C'est comme ça au nord d'une île, en gros La Rochelle, Metz, vous voyez dans cette diagonale. Eh bien on commence à avoir un ciel très nuageux, couvert, avec des pluies qui vont même s'intensifier sur la Bretagne et la Normandie cet après-midi, avec du vent fort jusqu'à 70 km/h sur ce littoral breton. Pendant ce temps-là, au sud de cette limite, donc La Rochelle, Metz, ça va être beaucoup plus ensoleillé, même parfois ciel tout bleu, on a du mal à y croire, plus au nord. En revanche, douceur pour tout le monde, 16 à 20 degrés au nord comme au sud, et on ira même jusqu'à 23 degrés parfois près de la Méditerranée.
Le duel des auditeurs autour de cette question à propos du débat Trump-Biden, l'élection présidentielle américaine est-elle ridicule? Vous êtes 77% à dire oui, à 14% de non. On attend désormais vos arguments au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle, et que pensez-vous de Donald Trump, de Joe Biden? Est-ce que vous avez fait un choix? Pourquoi pas? Et puis est-ce que ça pourrait se passer en France? Est-ce que vous l'espéreriez ou est-ce que vous le craindriez? Est-ce que vous le craignez? Eh bien ça, ce serait une question qu'on pourra poser tout à l'heure. On pourra également évidemment parler de la situation actuelle avec les restaurateurs, le chef Etchebest qui appelle les restaurateurs à faire du bruit pour ne pas mourir en silence. Et puis lors du sommet du Grand Paris hier soir, Nicolas Sarkozy a lancé de nouvelles piques aux maires écologistes. Moi je suis à fond pour les Jeux Olympiques, je suis à fond pour le Tour de France et je suis à fond pour les sapins de Noël. Je ne peux pas être plus démodé, a-t-il dit. On en parle.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Mais d'abord, ce bruit d'explosion qui a été entendu dans toute l'Île-de-France il y a environ une demi-heure. Les vitres ont tremblé, tout le monde s'est inquiété. Finalement, Pierre Julien, c'est un avion de chasse qui a franchi le mur du son.
Oui, c'est un rafale de l'armée de l'air et de l'espace de Saint-Dizier qui a été envoyé en toute urgence au secours d'un appareil civil qui avait perdu le contact radio avec les contrôleurs aériens. On appelle cela la permanence de sûreté aérienne, car l'avion non identifié peut être une menace, référence au 11 septembre. Le rafale est toujours en vol, d'ailleurs, il faut aller vite, d'où la vitesse de l'avion après son décollage qui a passé le mur du son à l'est de Paris. Il était 11h57 et avec les conditions météo, bien la déflagration s'est propagée sur plus de 20-30 km, passé Mach 1. Et c'est pour autoriser, de dire que dans ce cas exceptionnel pour les avions de chasse, d'habitude le bang, le passage du mur du son n'est toléré qu'à l'entraînement, à très haute altitude et dans des couloirs aériens bien définis.
Nous voilà rassurés, merci Pierre. La crise économique sera-t-elle pire que la crise sanitaire liée au coronavirus? La croissance s'est effondrée, le gouvernement s'attend à l'arrivée de 800 000 nouveaux chômeurs d'ici à la fin de l'année. Mais pour le Secours populaire, c'est déjà une réalité. Depuis le confinement, l'association a vu arriver 45% de demandeurs qui leur étaient jusque-là inconnus. C'est le cas de Samuel, 35 ans, qui travaille dans la restauration. Il a perdu son emploi début mars. Sa vie a basculé du jour au lendemain.
Du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans travail et avec l'impossibilité de toucher des allocations chômage, étant donné que je venais de quitter un CDI. On se retrouve au RSA avec 500 euros par mois, avec un loyer à 700 euros. Je pensais bien que je n'avais même pas de quoi payer mon loyer. La nourriture a été la principale peur, parce qu'on a tous besoin de manger pour se lever le matin. Et croyez-moi qu'on est perdu dans sa tête, on ne sait plus où on est. Donc tout ce genre de sentiment d'angoisse, de peur, de honte, est complètement dévasté. Socialement parlant, et psychologiquement parlant. Une assistante sociale m'a dirigé vers des associations caritatives alimentaires surtout. Et on se sent moins seul parce qu'on est carrément seul à part ça. Ça peut arriver à n'importe qui.
Le témoignage de Samuel recueilli par Anaïs Bouissou. Et nous sommes justement avec Thierry Robert, le directeur général du Secours Populaire. Bonjour.
Bonjour.
C'est un constat assez effrayant que vous dressez avec le baromètre annuel réalisé avec Ipsos. C'est vraiment du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale ?
Oui, et c'est la 14e année que le Secours Populaire mène cette enquête en partenariat avec Ipsos. Et cette enquête révèle effectivement un vrai tsunami sur les questions de besoins de la population dans notre pays. Ce que nous avons ressenti d'ailleurs depuis la période du début de la crise sanitaire, puisque le Secours Populaire a accueilli parmi les personnes qu'il a aidées 45% de personnes qui n'étaient jusque-là jamais venues demander des aides aux associations et pas plus au Secours Populaire qu'à d'autres services sociaux.
C'est vraiment ce chiffre-là, 45% qui nous interpelle. Oui. 45% de ceux qui vous sollicitent n'étaient jamais venus. Ça veut dire que cette nouvelle précarité, elle s'est déclarée très vite.
Elle s'est déclarée très vite dès les premières semaines qui ont suivi le confinement. Et on a eu d'ailleurs pas mal de témoignages liés à des personnes qui étaient soit dans les milieux étudiants et n'ayant plus de ressources, que ce soit les intérimaires, des auto-entrepreneurs. Donc une augmentation importante de populations qui ont fait appel aux aides du Secours Populaire. Et notre enquête aujourd'hui le révèle, puisque 43% des actifs disent avoir ressenti une baisse de leurs ressources. Un Français sur trois, c'est dire l'importance des conséquences de cette crise sur les ressources de nos compatriotes.
Ça veut dire que toutes les tranches d'âge sont touchées ? Ça veut dire que vous avez vu les étudiants en premier et ensuite ?
Nous avons vu beaucoup effectivement d'aide au niveau des étudiants. D'ailleurs, je dois souligner aussi que un petit point d'espoir quand même sur cette enquête, c'est que la jeunesse durement touchée dans cette épreuve est aussi volontaire, puisque l'enquête donne un chiffre de 78% des 16-24 ans prêts à faire quelque chose pour aider les autres. Donc c'est aussi un aspect positif qu'on tient à souligner, c'est que cette solidarité, elle s'est exercée tout au long de cette période et elle se poursuit. Mais effectivement, c'est aussi des populations de retraités, c'est aussi des, encore une fois, des auto-entrepreneurs, c'est dans tous les milieux, dans toutes les zones, puisque nous avons aussi été très présents dans les milieux ruraux où les besoins se sont fait ressentir. On nous a même pu aller à la rencontre de personnes qui n'avaient vraiment plus rien dans leur frigo. Je pense notamment à un papa seul avec ses enfants dans le Loiret, où nos responsables sont arrivés, il y avait un paquet de nouilles dans le frigo pour pouvoir assurer la nourriture de la famille.
Vous redoutez les prochains mois, j'imagine, la fermeture des petites entreprises. On voit déjà la crise dans le milieu de la restauration.
Oui, tout à fait. Nous avons encore une fois beaucoup dans ces métiers de personnes, comme dans les métiers de l'événementiel, de la culture, de personnes qui sont venues demander de l'aide ou vers lesquelles nous nous orientons pour leur apporter la solidarité. Donc c'est effectivement aussi une situation dramatique dans ce secteur.
C'est difficile pour eux de venir demander de l'aide. On en parle souvent avec les Restos du Cœur, où on a souvent des témoignages de gens qui disent « le premier pas, c'était très difficile de faire le premier pas ».
Oui, ça a toujours été un constat. Venir demander de l'aide, c'est jamais quelque chose que l'on peut faire facilement, aisément, parce que chacun a sa dignité. Et c'est d'autant plus vrai pour ceux qui, jusqu'à présent, vivaient correctement et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans ressources. Nous avons beaucoup de relais pour aussi rassurer les gens, discuter avec eux, échanger, les accompagner dans ce moment parfois assez difficile de venir nous demander de l'aide. Et vous savez, le Secours Populaire est une association de solidarité populaire, comme son nom l'indique, et les personnes que nous aidons sont souvent aussi volontaires pour elles aussi apporter un soutien, faire il n'y a pas celui qui donne et celui qui reçoit chez nous. Et du coup, c'est aussi un moyen de relever la tête que de pouvoir être aussi utile aux autres quand on est soi-même dans le besoin. Mmh. C'est un des fondamentaux de notre association, dans notre démarche de solidarité.
On donne un colis, mais on donne aussi et surtout de la chaleur humaine. Merci beaucoup, merci Thierry Robert d'avoir été l'invité
merci
de ce
à
journal.
Vous.
Ce matin, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé le lancement d'un fonds pour inciter les Français à investir leur épargne dans les PME, un fonds commun de placement géré par BPI France avec un apport minimum de 5 000 € pour chaque épargnant. Il revendique une forme de patriotisme économique. L'épidémie continue de progresser avec plus de 8 000 cas confirmés hier, 40 personnes supplémentaires en réanimation dans tout le pays. Et on s'aperçoit, Odile Pouget, que le profil de ces malades est le même que celui de ceux qui avaient été hospitalisés durant la première vague.
Profil semblable en effet, comme au printemps dernier, on a deux fois plus d'hommes que de femmes en réanimation, des malades en très grosse majorité, plus de 90% âgés de plus de 45 ans. À noter quand même que les plus de 75 ans ne sont pas les plus nombreux, à la différence de la première vague, car ils se protègent beaucoup plus. Mmh. Hypertension, surpoids, obésité, diabète constituent toujours des facteurs aggravants. Le virus, lui, n'a pas changé, il n'est pas moins dangereux, donc les cas de détresse respiratoire aiguë sont toujours aussi grave. Un changement tout de même, et il est positif. La durée moyenne en réanimation a été raccourcie, car on intube beaucoup moins les patients. C'est un des progrès accomplis dans leur prise en charge.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Odile. La Belgique vient de franchir la barre des 10 000 morts. La moitié des décès ont été enregistrés dans les maisons de retraite. Une pause et dans un instant, les vrais chiffres de la délinquance.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Les vrais chiffres de la délinquance venus du ministère de l'Intérieur. Il y a quelques semaines, Gérald Darmanin, le locataire de la place Beauvau, dénonçait un ensauvagement. Que disent les statistiques de 2019, Alice Moreno ?
Eh bien, certains indicateurs sont effectivement en hausse. 880 victimes d'homicide l'an dernier, c'est 4% de plus qu'en 2018. Mais c'est une évolution toute relative. Il y a deux ans, le nombre d'homicides avait largement chuté. Les violences enregistrent elles aussi une hausse, plus 8% en un an, mais on ne parle pas là de violences commises sur la voie publique, ce sont essentiellement les violences intrafamiliales qui font gonfler les chiffres. Autre augmentation sensible cette fois, le nombre de violences sexuelles, plus 19%. Cela ne signifie pas forcément que les viols et agressions sexuelles sont plus fréquents, mais les victimes déposent plainte plus facilement depuis le début du mouvement MeToo en 2017. La hausse est constante et toujours impressionnante.
Bon, et puis il y a aussi un bond sur les escroqueries à la carte bancaire.
Absolument, les escroqueries augmentent de 11% en un an, alors que les chiffres étaient à peu près stables les années précédentes. 360 000 victimes ont été dénombrées, beaucoup d'arnaques en ligne. Donc, à titre de comparaison, le nombre de cambriolages, lui, n'a pas évolué. 230 000 plaintes ont été enregistrées à peu près comme l'an dernier.
Mais Alice Moreno, l'autopsie du corps de Victorine devait avoir lieu ce matin. Les premiers examens du corps de la jeune fille de 18 ans retrouvée sans vie lundi à Villefontaine n'ont pas permis d'établir les causes de la mort. 47 enquêteurs sont mobilisés sur l'affaire, notamment sur l'enquête de voisinage. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame a ému le monde entier et les dons ont afflué, 824 millions d'euros au total, venus de 140 pays. La Cour des comptes a regardé de près cette nouvelle manne et demande un peu de clarté à ceux qui gèrent cette somme, Marie Guerrier.
Oui, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, utilise une image, c'est comme si tous les habitants d'une ville comme Nice avaient fait un don.
Tout ça est absolument sans précédent. Ça représente 338 000 dons de personnes physiques et d'entreprises. Dès lors qu'il y a ces dons, il doit aussi y avoir une transparence parfaite pour pouvoir assurer une traçabilité des dons.
La Cour demande à l'établissement public chargé de la gestion de la restauration de la cathédrale de tenir une comptabilité analytique et d'informer les donateurs. La Cour voudrait aussi que les dons ne servent qu'à la restauration. Et ce n'est pas le cas pour l'instant.
Ils payent aussi les frais de fonctionnement de l'établissement public, 40 personnes, un loyer, des salaires, des opérations de communication. Et donc, ce que nous demandons, c'est que soit mis fin à cette débudgétisation. Ce n'est pas un montant financier considérable, c'est 5 millions, on regarde 825 millions. Mais je pense que pour cimenter le pacte de confiance entre les donateurs, la France, le pays, il est bon que cette clarification soit faite.
Le ministère de la Culture devrait prendre à sa charge ces frais de fonctionnement, dit la Cour des comptes, qui demande d'ailleurs aussi au ministère de mener une enquête administrative pour clarifier les responsabilités de gestion et de mise en sécurité de Notre-Dame. Responsabilité enchevêtrée entre l'État, l'Église, la ville de Paris. Cette situation complexe a conduit à un état d'entretien préoccupant de la cathédrale avant l'incendie, concluent les sages de la rue Cambon.
Marie Guerrier, le feuilleton de la guerre de l'eau. Veolia dévoile aujourd'hui une offre améliorée pour acheter à Engie ses 29,9% de parts dans son concurrent Suez. Il propose 18 euros par action, soit près de 3,4 milliards d'euros et une période de discussion de 6 mois pour chercher les bases d'un accord. Le débat Trump-Biden aura mis les spectateurs américains chaos. Clown d'un côté, menteur de l'autre, caniche de Poutine ou marionnette de la gauche radicale. Et ce shut-up que le candidat démocrate excédé a lancé au président américain. Et on se demande s'il est vraiment indispensable de poursuivre ce pugilat, car en principe, il reste deux autres débats du même genre, Philippe Corbet.
Ah oui, la question est posée par beaucoup de pro-Biden sur les réseaux sociaux. Pourquoi infliger à l'Amérique deux autres soirées aussi désespérantes? À quoi bon essayer de débattre avec le candidat Trump, qui n'a cessé de l'interrompre, de l'empêcher de terminer ses phrases? C'est dur de placer un seul mot avec ce clown, c'est même agacé Biden. L'un des moments où il a perdu son calme, il a dit aussi au président de la fermer. Le modérateur du débat, un journaliste de Fox News, semblait consterné. Il a passé la soirée à faire la leçon au président. Biden préférait d'ailleurs s'adresser au modérateur ou bien directement à la caméra pour prendre les Américains à témoin. On voyait vraiment qu'il évitait de regarder le président, qui essayait de le pousser à la faute. Alors, Biden n'a pas été éclatant. Il a été parfois confus en butant sur les mots, mais il ne s'est pas effondré. Et au fond, il montre qu'il peut encaisser des coups sans finir KO. Donald Trump cherchait à projeter de la force pour qu'en contraste, Joe Biden apparaisse très faible. C'est bien pour ça que Biden ne devrait pas renoncer au prochain débat pour ne pas être accusé par le président de ce défilé.
Philippe Corbet a noté aussi que Donald Trump a refusé de condamner clairement les suprémacistes blancs. Il les a appelés de manière sibylline à reculer et à se tenir prêts. Dans un instant, l'histoire d'une valise oubliée, ce n'est pas la valise RTL.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
L'héritière et le magot, ça fera un joli titre de polar, mais c'est bien réel. À Paris, une femme qui venait d'hériter de l'appartement de sa mère est tombée par hasard dans la cave sur environ 600 000 euros en petites coupures, mais elle ne pourra pas récupérer la somme, Raphaël Vantard, parce qu'il s'agit bien d'un polar.
En tout cas, ça ne ressemble pas à un héritage ou un trésor caché. En fait, tout commence lorsqu'une quinquagénaire vide l'appartement où vivait sa maman. Elle veut faire estimer le bien pour le vendre. C'est un bel appartement situé tout près de la Tour Eiffel, dans un quartier plutôt cossu de la capitale. Cette femme est très vite intriguée par cette cave marquée dans les plans, mais qu'elle ne trouve pas. À force de chercher, elle trouve le débarras, mais il est cadenassé. La propriétaire commence par mettre un petit mot pour demander aux occupants de gentiment libérer la cave, mais rien ne se passe pendant un mois. Alors lundi, elle fait venir un serrurier, et là elle comprend pourquoi la cave était si bien fermée. À l'intérieur, une valise avec près de 600 000 euros en petites coupures. Là où cette femme de 55 ans est particulièrement honnête, c'est qu'au lieu de partir très vite à Ibiza, elle contacte tout de suite les policiers du 7e arrondissement de Paris. La valise est donc entre les mains de la police et plus précisément de la brigade de recherche et d'investigation financière. Il s'agit d'enquêteurs spécialisés dans le blanchiment d'argent. Ils essayent actuellement de remonter jusqu'au vrai propriétaire de cette valise, un tout petit peu plus chargée que notre célèbre valise RTL.
Un récit Raphaël Vantard. C'est la déroute, la débâcle, la déconfiture, la bérésina. On va en rester là pour les synonymes. Mais il ne reste plus que 4 Français dans le tableau masculin à Roland-Garros après le premier tour. C'est du jamais vu depuis 20 ans. Ça sent la crise à la Fédération où l'élection à la présidence aura lieu en décembre. Et l'actuel patron Bernard Giudicelli a profité hier du tournoi pour faire carrément campagne entre deux matchs, Jean-Michel Rascol.
Un peu comme si Noël Le Graët prenait le micro à la mi-temps d'un match de l'équipe de France pour vanter son action. Hier, Bernard Giudicelli a pris la parole devant 400 présidents de clubs dans le nouveau théâtre du tennis, le court Philippe Châtrier, équipé désormais d'un toit rétractable. Du coup, il n'y avait pas, selon nos informations, un seul spectateur payant dans les tribunes. Extrait.
Vous faites vivre le tennis dans votre club et nous avions à cœur cette année de vous accueillir ici. Oui, nous sommes en automne, mais soyons résolument optimistes. La volonté de notre fédération est d'innover. Faisons en sorte de montrer et au monde entier que l'on peut vivre et lutter contre le virus. Et vive le tennis français!
Parole de campagne à peine voilée que n'aura pas manqué de relever Gilles Moreton, adversaire déclaré du président pour l'élection du 12 décembre. Il n'aura pas échappé non plus à l'ancien joueur le terrible bilan sportif des Français à Roland-Garros. Seulement 4 qualifiés au deuxième tour, une première depuis 20 ans. Pas de quoi, il est vrai, faire un discours.
Et à suivre aujourd'hui, Benoît Paire, Herbert, Gaston Bonzi et Caroline Garcia. On fera un point tout à l'heure à 13h avec Isabelle Langer. Sachez que Serena Williams est forfait, blessée au tendon d'Achille. Enfin, c'est la journée mondiale du podcast. À cette occasion, RTL diffuse entre 00h30 et 16h30 cette nuit toutes les émissions inédites du studio podcast RTL. Par exemple, sur les grandes affaires criminelles, une lettre d'Amérique ou encore ensuite le nouveau podcast d'actualité que je vous propose chaque semaine avec Catherine Mangin. Et on se demande d'ailleurs, dans le numéro de cette semaine, ce que le port du masque change dans notre rapport aux autres. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer dans 5 minutes.
Cette
Pascal.
Affaire du tennis est quand même complètement folle, cette folle. Affaire française. Depuis 1983, il y a donc eu 4 tournois du Grand Chelem par an. 37 ans viennent de se passer. 4 fois 37, ça fait 4 fois 7, 28, ça fait 144.
Ça fait trop, en tout cas.
Pas un Français n'a gagné un tournoi du Grand Chelem depuis 37 ans. Alors qu'il y a des Espagnols,
ça
des Allemands...
Ça fait 148 exactement.
148, j'ai dit 144.
Vous n'étiez pas là.
Un Espagnol... L'Espagnol a gagné, l'Italie a gagné, bon, c'est incroyable quand même. Bon, et ça ne vous étonne pas plus que ça, vous.
Ah si, si, moi ça m'étonne qu'il n'y ait toujours pas de relève en plus. Apparemment, c'est pire chez les jeunes encore.
D'où la phrase la plus célèbre des commentateurs sportifs qui suivent le tennis, il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Le débat Trump...
En deuxième semaine.
Le débat Trump-Biden au menu des auditeurs ont la parole, et cette question, alors je pense que tout le monde ne l'a pas regardé cette nuit, mais c'est vrai que menteur, clown, vous allez la fermer, marionnette de la gauche radicale, on n'imagine pas ça en France. Honnêtement, on n'imagine pas ça en France. Donc, on sera notamment avec Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, pour nous en parler entre 14h et 14h30. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. La météo, Louis Baudin, le ciel est chargé, mais enfin, au moins, il fait doux.
Oui, c'est vrai. Je peux commencer par les températures. Là, on a encore une certaine douceur pour la période sur toutes les régions. On sera entre 16 et 20 degrés, pas moins dans la moitié nord, 20-23 degrés dans le sud, parfois un peu plus, même près de la Méditerranée. Mais côté ciel, là, il y a franchement deux camps. Hein. Je trace un trait en gros entre La Rochelle et Strasbourg, Metz à peu près. Mmh. Eh bien, en dehors de cette limite, ça restera très nuageux, même si par miracle, là, je viens de voir qu'il y avait une belle éclaircie sur Paris. Profitez-en parce que elle va pas
ça
durer.
Va pas durer.
Exactement. Donc, beaucoup de nuages et de la pluie qui va s'intensifier sur la Bretagne et sur le Cotentin. Et plus au sud de cette limite, donc en gros La Rochelle, Strasbourg ou Metz, eh bien là ça restera franchement plus ensoleillé tout au long de l'après-midi.
Bon, et demain, parapluie pour tout le monde ?
Parapluie pour tout le monde, parce que la perturbation dont je vous parle qui arrive sur la Bretagne et le Cotentin, eh bien en cours de nuit elle va progresser. Demain matin on la trouvera de l'Atlantique au nord et en cours de journée elle traversera toutes les régions, y compris le sud, sauf sur le littoral méditerranéen, avec donc à son passage des nuages, de la pluie, un peu de vent déjà, et puis un peu de neige également en montagne quand elle arrivera sur les frontières de l'Est.
Merci Louis. À suivre le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Shut up man, c'est ce qu'a dit Donald Trump à Biden hier soir, cette nuit. Nous sommes avec Guillaume, nous en parlerons. Bonjour, vous êtes étudiant en psycho, Guillaume.
Oui, bonjour, Pascal Praud, bonjour.
Bon, ça vous a plu ce débat ? Vous avez regardé ? Vous avez veillé cette nuit ?
Oui, je l'ai vu, c'est ça, et c'était très divertissant, c'était très agressif surtout, c'était très violent pour les deux débatteurs, c'était très violent.
Et bien, vous en parlerez dans une seconde, et l'étudiant en psycho que vous êtes pourra peut-être dresser un profil psychologique de Donald Trump, pourquoi pas.
C'est un boulot à plein temps, ça.
Christelle le rappelle des titres.
À Saint-Denis, en banlieue parisienne, un lycéen de 16 ans blessé à coups de couteau alors qu'il était en classe. C'est ce que nous indique l'agence France-Presse à l'instant, qui cite des sources policières. Son agresseur, présumé un lycéen de 20 ans, est en garde à vue. Une énorme explosion entendue peu avant midi dans toute la région parisienne, ce qui a déclenché un début de panique, en tout cas sur les réseaux sociaux. Plus de peur que de mal, c'était un avion de chasse, un rafale de l'armée de l'air qui a franchi le mur du son alors qu'il portait secours à un appareil civil en panne de radio. Le cri d'alarme du Secours populaire, depuis le confinement, l'association a vu arriver 45% de nouveaux demandeurs et s'attend à une crise économique inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Partons à Roland-Garros où il ne reste plus que 4 Français en lice. Bonjour Isabelle Langer.
Chez les garçons.
Oui, chez les garçons. J'ai dit français, mais j'aurais dû préciser que c'était chez les garçons. On croise les doigts pour que ça se passe mieux qu'hier.
Oui, on espère. Hugo Gaston est sur le court numéro 5 face au japonais Nishioka. Il a remporté la première manche, Hugo Gaston, 6 jeux à 4, 2 jeux partout entre les deux hommes. Dans le deuxième set, je vous rappelle le forfait de Serena Williams, la championne aux 23 titres du Grand Chelem, est blessée au tendon d'Achille. Elle a ressenti une petite douleur ce matin à l'échauffement. À 39 ans, elle n'a pas voulu prendre de risque. Elle doit observer maintenant 2 semaines de repos. On attend encore, côté français, Pierre Hugerbert, ce sera compliqué, face à l'allemand Zverev, tête de série numéro 6. Benoît Paire contre l'Argentin Coria. Caroline Garcia sera opposée en fin de journée à la Bélarusse Sasnovic. Et puis un autre Français, Benjamin Bonzi, est lui aussi attendu en fin de journée face à l'Italien Zinner.
À prochain point, 13h30. Merci Isabelle.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RT.